Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Des mystères de l'écriture hiéroglyphe à la splendeur des cités antiques, le magazine Historia nous propose une plongée dans l'Égypte des pharaons. Un royaume d'une grande richesse, à la fois tourné vers l'autre monde, celui des ténèbres, et vers les astres et l'univers. Un pays oublié que l'on redécouvre à travers ses cités phares comme Memphis, Cyrène ou Alexandrie. Ce numéro spécial est également centré sur Cléopâtre, la dernière des Ptolémées, dont le royaume vieillissant se trouva confronté à un ennemi puissant et qui l'asservira, l'Empire romain. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Aude Gros de Belair.
Bonjour.
Égyptologue, chargé de cours à l'université de Nîmes-Vauban, spécialiste des problématiques tournant autour de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Vous avez écrit une dizaine d'ouvrages sur l'Égypte et collaboré à de nombreux magazines, dont ce numéro spécial d'Historia, consacré plus particulièrement au mystère du royaume de Cléopâtre. Un numéro qui commence par une évocation de l'égyptomanie, cette frénésie d'Égypte qui souffle sur le monde occidental dans le sillage de la campagne du général Bonaparte. Qu'est-ce qui a intéressé les savants du XVIIIe et plus tard XIXe siècle ?
Quand les savants sont arrivés en Égypte, ça a été absolument incroyable pour eux de voir tous ces temples, ces pyramides qui faisaient 150 mètres de haut, tous ces hiéroglyphes sur les parois alors qu'ils comprenaient absolument pas l'écriture égyptienne. Et ça a exercé une sorte de fascination absolument incroyable. Et ils n'ont eu de cesse de parcourir l'Égypte, de faire des relevés, d'essayer d'attraper le maximum de cette civilisation que, je le répète, on ne comprenait pas, puisque on avait perdu la connaissance des hiéroglyphes. Et à partir de là, quand ils sont venus en Orient avec cette description de l'Égypte qui a été un véritable succès, puisque c'est quand même 8 volumes in folio qui ont été vendus comme des petits pains, qui ont été réimprimés, etc., l'égyptomanie était née. Et puis ensuite, avec Champollion, qui a découvert le secret des hiéroglyphes, la boucle était bouclée.
Alors justement, les hiéroglyphes ont au moins 3500 ans, c'est à peu près la période du pouvoir des pharaons de l'Égypte ancienne. Est-ce que l'énigme des hiéroglyphes a été le déclencheur de cette égyptomanie ?
Oui. Vraiment, on dit très souvent que Champollion est le père de l'égyptologie, parce que avant, on était dans une sorte de fascination, et avec la découverte de l'écriture hiéroglyphique, on est passé à de la science. On est passé, voilà, de l'amateurisme à la science. Et depuis Champollion, je vous le dis, encore aujourd'hui, on fait des découvertes et des découvertes et des découvertes dans lesquelles on peut vraiment pénétrer parce que on comprend l'écriture et la langue.
Alors, Champollion se serait appuyé pour résoudre cette énigme sur, par exemple, l'alphabet copte. Est-ce que c'est une réalité ?
Oui, c'est une réalité, puisqu'en fait, pour résumer rapidement, le copte est vraiment le dernier état de la langue hiéroglyphique. C'est-à-dire qu'on a le hiéroglyphique, puis ensuite, il va un peu se vulgariser, ça va être le hiératique, puis ensuite le démotique, et après le démotique, avec l'occupation chrétienne de l'Égypte, on va avoir le dernier état de la langue égyptienne, qui est vraiment le copte. Et lui comprend ça dès le départ. Il comprend que le fil, c'est d'apprendre le copte et de penser en copte. C'est ça qui est assez amusant dans ses mémoires. Il pense en copte, il est dans sa salle de bain, il réfléchit en copte, il se force vraiment à se familiariser avec le copte.
Autrement dit, les coptes sont des populations qui sont extrêmement anciennes dans l'Égypte.
Ah, mais c'est les plus anciennes. On va dire, ce sont vraiment... Alors ça, c'est une grande polémique. Est-ce que les descendants des pharaons sont, entre guillemets, arabes ou coptes ? Fatalement, ils sont coptes. C'est vraiment... les premiers chrétiens sont les derniers égyptiens.
Alors, dans ce numéro spécial du magazine Historia, ce numéro spécial est organisé en trois parties. La première est consacrée au monde de l'au-delà, car l'Égypte est à la fois tournée vers la mort et le néant, mais aussi vers les astres et l'univers.
C'est-à-dire que non, pas vraiment, parce que pour eux, l'univers est un tout d'ailleurs dont le centre est occupé par l'Égypte. Et le pharaon en titre n'est pas non seulement dirigeant de l'Égypte, mais de l'univers entier. Donc ça, c'est une conception très égyptienne du monde. Et du fait de cette particularité, du fait également dans leur rapport avec les dieux, ils ont été obligés de construire un certain nombre de temples, d'édifices. Et ces édifices sont reliés quelque part au cosmos, puisque les dieux égyptiens sont des dieux cosmiques. À partir de là, on peut pas ignorer l'univers. Et parallèlement à ça, le monde de l'au-delà est un monde complètement dissocié, puisque c'est le monde, les Égyptiens l'appellent le monde inférieur, mais qui n'est pas une fin. C'est un passage vers une autre forme d'existence. Et l'important pour les Égyptiens, c'est pas de rester dans ce monde inférieur, c'est de revenir vers la pleine lumière du jour. C'est-à-dire que ce qui éclaire leur vie, aussi bien terrestre que funéraire, c'est l'éclat du soleil. Donc on est bien dans cette connexion universelle.
Alors, summum de l'art funéraire que vous décrivez dans ce numéro spécial de Historia, les pyramides, qui n'ont peut-être pas encore révélé tous leurs secrets, mais il s'agit bien de tombeaux.
Ah oui, ça, il s'agit de tombeaux, ça c'est indiscutable, et depuis très longtemps. En revanche, ce sur quoi on est un peu démunis, c'est sur leur construction. Parce que c'est extrêmement difficile de savoir comment ils ont effectivement pu être édifiés, partant du principe que on est à une époque où le fer n'existe pas, donc on a des outils en bronze, on a peu de bois sur la vallée du Nil, on est sur des terrains sablonneux, on n'a pas des quantités absolument extraordinaires d'ouvriers susceptibles de construire les pyramides, et pourtant... On construit des pyramides, 150 mètres de haut, des millions de blocs, qui encore aujourd'hui, c'est-à-dire 2000 plus 2000, c'est à peu près 4000 ans, sont toujours debout et nous défient au quotidien.
Et non, on n'a toujours aucune explication réelle.
Non, régulièrement, alors tous les...
Oui, il y a de vieux fantasmes qui circulent.
Voilà, régulièrement, vous avez des gens qui... Voilà, ça y est, j'ai découvert le mystère de la construction des pyramides. Mais je vous assure qu'à l'heure actuelle, toutes ces théories ont sans doute... chacune une petite part de vérité. Encore aujourd'hui, c'est incontestable, on ne sait absolument pas comment sont construites les pyramides.
Alors, seconde partie de ce numéro spécial d'Historia, consacré à l'Égypte de Cléopâtre. Celle-ci, on le rappelle, c'est la fille du dernier Ptolémée, dynastie grecque, qui règne sur l'Égypte pendant à peu près 3 siècles, 300 ans. Oui. À cette époque, l'Égypte est-elle une grande puissance méditerranéenne ?
Alors, est-ce que c'est une grande puissance méditerranéenne ? Oui, parce que l'Égypte, depuis le Nouvel Empire, disons depuis 1500 avant Jésus-Christ, a réussi vraiment à imposer sa toute puissance. Le problème, c'est que, vous savez que l'Égypte grecque est le fruit de l'Égypte d'Alexandre, c'est-à-dire que l'Égypte était envahie par les Perses. Les Perses ont été vraiment terriblement meurtriers en Égypte, et lorsqu'Alexandre, qui partait à l'assaut de l'Empire perse, est arrivé dans le delta du Nil, il a été vraiment accueilli comme un sauveur. Ensuite, il a installé des diadoques, puis cette dynastie Ptolémée. Mais les pharaons grecs restent des pharaons grecs, même s'ils gouvernent l'Égypte et même s'ils se sont terriblement égyptianisés, puisqu'ils ont continué à construire des temples dédiés aux divinités égyptiennes. Je me permets de dire que 80% des temples que l'on visite aujourd'hui en Égypte sont des temples grecs. Très souvent, les gens ne le savent pas. Vous allez voir le temple d'Isis à Philae, le temple d'Hathor à Dendera, le temple d'Horus à Edfou. Par exemple, ce sont des temples, même s'il y avait des fondations pharaoniques qui précédaient la construction de ces temples, ce sont des temples grecs qu'on visite.
Grec, mais néanmoins égyptien.
Mais néanmoins égyptien, dédié à des divinités purement pharaoniques. Et ils sont très puissants, mais Rome est encore plus puissante. Il faut pas l'oublier. Et justement, on est à ce switch, si je peux me permettre ce mot. L'Égypte a bien compris que Rome a des velléités, parce que l'Égypte est le grenier à blé de Rome, dit-on, et que César n'attend qu'une chose, c'est de s'emparer de l'Égypte. Et ça va être justement la lutte de Cléopâtre pendant tout son règne, c'est de tenir loin l'ennemi romain, dont finalement, elle va se faire un allié.
Et donc, est-ce que c'est avec Cléopâtre qu'il y a une rupture dans le cheminement de l'Égypte antique ? C'est elle qui marque la rupture ? C'est la fin de l'Empire égyptien ?
C'est la fin de l'Empire égyptien, tout simplement parce qu'elle a perdu. Elle a perdu, c'est-à-dire que normalement l'Égypte aurait dû s'arrêter avec César, et puis finalement elle est arrivée à convaincre César et sans doute à le séduire. Et je pense qu'il y avait derrière ça sans doute une très belle histoire d'amour. Et ils ont eu le petit Césarion, ce qui a permis de sauver encore quelques années l'Égypte pharaonique, l'Égypte grecque du moins. Et puis ensuite avec Marc-Antoine, dont elle s'est fait un nouvel allié, elle a pensé aussi que ce serait possible. Et puis Octave a mis fin à tout ça avec la bataille d'Axium. En fait, la mort de Cléopâtre signe la fin de l'Égypte grecque, puisque l'Égypte va devenir une province romaine.
Donc Octave, au passage, fils de César, et Césarion...
Enfin, fils adoptif.
Fils adoptif de César, et Césarion, dont on a parlé, qui sera justement tué par Octave quelques temps après, pour l'empêcher peut-être d'être roi à la fois de l'Égypte, mais aussi de Rome. Alors, troisième volet de ce numéro spécial du magazine Historia consacré à l'Égypte, la recherche d'un pays oublié. Ce volet nous permet de découvrir ou de redécouvrir les grandes cités des temps anciens. Quelles sont ces cités que l'on a oubliées ? Alexandrie, par exemple ?
Bah, elle n'est pas vraiment oubliée. Elle est, disons que c'est une ville qu'on est en train de fouiller. Moi, j'ai travaillé à Alexandrie sur les, on va dire, sur les fondations du nouvel hôpital. Et c'est tout à fait passionnant de travailler sur ces chantiers-là, parce que vous avez, en fait, les Égyptiens ont une pratique assez étonnante, c'est que ils ont toujours construit les uns sur les autres, sans nécessairement détruire ce qu'il y avait en dessous. Et quand on travaillait à Alexandrie, c'était marrant d'avoir plusieurs mètres de stratigraphie depuis le rocher jusqu'à la ville actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on marche 9 ou 10 mètres au-dessus du sol, et c'est très caractéristique ça de l'Égypte. Quand les savants sont arrivés, par exemple sur les sites de Esna, Edfou, etc., on marchait au niveau des chapiteaux. Donc c'est Alexandrie revient, enfin va petit à petit, si les fouilles peuvent continuer, parce que c'est vrai que c'est pas très facile en ce moment, petit à petit, le réseau antique d'Alexandrie ressurgit, comme par exemple le présumé palais de Cléopâtre qui aurait été trouvé dans les eaux, etc.
Alors, Alexandrie, il y a d'autres villes aussi, il y a Memphis, il y a Cyrène, qui sont des lieux emblématiques de cette période de l'Égypte antique.
Oui, parce que Cyrène était vraiment... Cyrène, qui est donc en Cyrénaïque, en Libye actuelle, c'était une ville qui était vraiment un tremplin entre l'Égypte et, disons, le bassin méditerranéen. Donc, il y avait un commerce extrêmement actif. Et comme toutes ces villes romaines, si le commerce est actif, la ville se développe. C'est le même cas pour Arles, par exemple. Arles est une ville extrêmement active à l'époque romaine, et ben c'est pour ça qu'elle fleurit à cette époque-là. Donc toutes ces villes-là, qui sont des villes côtières, et qui sont des villes sur lesquelles l'Empire romain a pu installer soit une colonie, soit une ville, sont des villes qui ont effectivement laissé pas mal de traces.
Est-ce que l'Égypte moderne, l'Égypte d'aujourd'hui, a une certaine nostalgie de cette époque, ou alors est-ce qu'elle avance avec la modernité en dépit de toutes les richesses qu'il y a sur son sol ?
Vous savez, l'Égypte moderne, c'est pour y avoir travaillé pendant 20 ans et y avoir vécu pendant 20 ans, c'est une Égypte qui a cette chance énorme d'avoir ce patrimoine sur son sol, mais qui malheureusement n'a pas nécessairement les moyens de le gérer, parce que ils sont 70 millions d'habitants, que la vallée du Nil finalement c'est une petite bande de terre qui ne leur permet pas nécessairement de s'autosuffire, et malheureusement depuis les premiers attentats de Deir el-Bahari, y a plus de touristes en Égypte. Donc pour un pays qui vivait à peu près à 90% de son tourisme, comment vous dire, ils ont de l'or dans les mains, mais dont ils ne peuvent absolument pas profiter, puisque il n'y a plus de touristes pour venir. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus d'argent dans les caisses, plus d'entretien des monuments. Moi, j'ai vu des monuments ces dernières années qui partent vraiment en désuétude, parce que ils n'ont plus les moyens de le gérer.
Et puis la modernité avance, et les constructions qui vont par exemple sur le site de Gizeh, qui s'approchent de plus en plus.
Ça, c'est monstrueux, oui. Voilà. Moi, les premières années, quand j'ai visité les pyramides, on voyait le site des pyramides et puis on voyait au loin la ville. Maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Les pyramides sont absolument cernées par la ville, par des grands hôtels, par tout ce que vous voulez. Et surtout, avec tout ce que ça entraîne, la pollution, la dégradation, etc. Donc, c'est assez dramatique. Et ce serait bien que l'UNESCO un jour fasse un peu une vraie sonnette d'alarme pour dire attention, les sites égyptiens sont quand même en danger.
Ce que fera peut-être la nouvelle directrice générale, Madame Azoulay, qui a été nommée il y a quelques jours. Merci Aude Gros de Belair, égyptologue, spécialiste de la vie quotidienne des anciens égyptiens.
Je vous remercie aussi.
Et je renvoie donc à ce numéro spécial du magazine Historia consacré à l'Égypte des pharaons, numéro disponible à la vente. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem, où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
On commence avec vous Alexandre. Quel est l'événement à la une de vos journaux ?
C'est l'annonce par Ahmad Shafi, qui avait perdu de peu la présidentielle de 2012 face au frère musulman Mohamed Morsi, de sa candidature à l'élection présidentielle égyptienne de 2018. Une annonce qui a surpris son parti, le mouvement populaire égyptien, dont les députés soutiennent le président Abdel Fattah el-Sissi. Des commentateurs ont noté que si Ahmad Shafi se prévalait de son ancien titre de commandant en chef des forces aériennes, il évitait soigneusement de mentionner qu'il avait été le dernier premier ministre de l'ex-président Moubarak. Les choses se sont envenimées quand la chaîne qatarienne Al Jazeera a diffusé une déclaration du général Shafik, qui vivait aux Émirats depuis 2012 et qui accusait Abu Dhabi de limiter ses mouvements. Une déclaration jugée comme une trahison par les pro-Sissi et les anti-Qatariens, mais applaudie par les frères musulmans et les médias proches du Qatar. Une déclaration qui pourrait avoir plombé la campagne présidentielle de Shafik avant même qu'elle ne commence, estiment des éditorialistes.
Alexandre, deux autres sujets sont abordés dans la presse égyptienne et arabe cette semaine.
Il y a d'abord l'affaire de la réduction en esclavage des migrants africains en Libye. Un scandale condamné par les responsables libyens, mais qui soulève des réserves de la part de certains commentateurs. Jibril Al-Ebedi, un éditorialiste libyen, estime dans Ash-Sharq Al-Awsat que la cause humanitaire pourrait être utilisée, comme par le passé, pour justifier une nouvelle intervention occidentale en Libye, notant que les réserves viennent surtout du côté de l'armée nationale libyenne du général Khalifa Haftar, qui s'est déjà opposé à ce que la marine italienne patrouille dans les eaux libyennes pour combattre les migrations clandestines.
Michel, à quoi s'intéresse prioritairement la presse israélienne cette semaine ?
Eh bien, ce sont à nouveau les enquêtes qui visent le premier ministre israélien, qui font la une de l'ensemble de la presse ici. Haaretz cite la devise des trois mousquetaires, un pour tous, tous pour un. L'entourage de Benjamin Netanyahou, fait remarquer un éditorialiste, fait tout pour sauver le chef du gouvernement avec des projets de loi qui devraient lui donner une certaine immunité. C'est le pays qui est en danger, souligne Ediot Aharonot, et dans Marie, Eric, un sondage met l'accent sur la chute libre de la popularité de Netanyahou. Son parti, le Likoud, arriverait en cas d'élection ex aequo avec une formation de l'opposition. Et puis toujours, selon ce sondage, seuls 26% des Israéliens estiment que Netanyahou est apte à gouverner.
Un autre sujet également développé dans vos journaux, Michel.
C'est bien sûr la situation dans le sud du pays, plus précisément le long de la frontière avec la bande de Gaza. Lors des tirs de roquettes, une brusque escalade, le sud est en feu, affirment les journaux. En titre et en image aussi, les renforts déployés par l'armée israélienne dans le secteur. Mais pour Israël Hayom, le journal proche du pouvoir en Israël, il semble évident que personne ne cherche à envenimer les choses, et cela des deux côtés de la frontière. L'attaque en provenance de Gaza a été mesurée, et la riposte israélienne également.
Quelle est l'autre information digne d'intérêt, Alexandre ?
C'est le premier concert musical féminin donné à Jeddah en Arabie Saoudite. La chanteuse émiratienne Balkis s'est exhibée devant un public de 3000 femmes. À côté des romances, il y avait aussi des chansons à la gloire de l'Arabie et de son roi Salman. Un concert sponsorisé par le très officiel Organisme Général du Divertissement, un organisme créé sous l'impulsion du prince héritier Mohammed bin Salman dans le cadre de son plan de modernisation du royaume. L'orthodoxie wahhabite était contre la musique car elle détourne les musulmans de l'écoute du Coran. Toutefois, les concerts masculins étaient tolérés, mais pas ceux des femmes.
Michel, un dernier événement pointé par vos quotidiens d'information.
C'est un titre à la une de Makor Rishon, l'hebdomadaire de la droite et des colons de Cisjordanie. Netanyahou estime, lors de conversations privées, que les courants non orthodoxes du judaïsme aux États-Unis sont appelés à disparaître dans une génération ou deux. Et cela explique bien sûr l'attitude du Premier ministre à l'égard des communautés conservatrices et libérales. Ce sont les courants majoritaires à l'heure actuelle aux États-Unis.
Merci Michel, merci Alexandre. Mathias Golshani a réalisé ce nouveau numéro d'Orient Hebdo que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain. Passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.